question, je dis non, mais à la vie, je dis oui.
Bonsoir tout le monde, émission spéciale aujourd'hui, parce que nous sommes le 23 décembre, et demain c'est le 24 décembre, donc demain c'est Joyeuse Pâques.
C'est pas qu'il y a la cloche
qui va
passer.
Et voilà. Et c'est l'occasion de revenir sur plein de choses et d'aborder plein de thèmes particuliers. C'est donc l'émission Zoom Écologie. Un petit peu enjouée aujourd'hui. On va pas dire qu'on a un peu abusé, mais presque. Et vous êtes bien sûr RFPP 106.3 FM. Et nous allons aborder plein de sujets aujourd'hui en compagnie de... Élise.
Salut à tous.
De Raled, citoyen du monde.
Salut. Et à votre.
De Rebecca.
Salut, bonne soirée.
Et de Cyril à la technique, qui est...
Pas à la technique.
Il est parti.
Salut voilà. Cyril.
Bienvenue.
Donc, une émission tranquille aujourd'hui sur Noyeux Joël, et dans laquelle on va aborder plein de sujets, enfin plein de chapitres particuliers, comme l'apéro presse, ça sent le sapin, le digespliff, et puis plein de choses pour aborder les fêtes. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de spécial? Un petit tour de table rapide avant?
Alors, un petit
pour se mettre en jambes.
Apéro presse, peut-être, tout de suite.
Bah, apéro presse, déjà, il me semble qu'il y a de la neige.
Un petit peu, oui.
Et t'avais une info là-dessus, Johan.
Ah oui. Bah, je crois que tout le monde galère, quoi. Un petit peu, donc...
Je crois que l'armée a
je glisse. Glisse. Je galère pas, je glisse.
Oui, ouais, c'est le plus simple. Oui, bah... Ouais.
Ça dépend des chaussures que tu as.
Oui, aussi, je conseille les skis en ce moment, d'ailleurs.
Des chaussures écologiques un peu usées.
Et c'est de la neige bio, hein, d'ailleurs, hein, bien blanche bio. Hein. Et on peut dire que c'est quand même assez un des mois de décembre vachement plutôt exceptionnel. Hein. On est bien servi côté neige, il faut en profiter. Hein. C'est une super neige de super qualité pour faire des bonhommes de neige, par exemple.
Et non, oui. C'est un peu poudreux, en fait. J'ai remarqué ça tout à l'heure avec mon fils.
Ah, ma mince, alors.
Ça marchait pas très bien pour les boules de neige.
La semaine dernière, c'était largement mieux, hein, pour avoir testé.
Oui, mieux.
Mais il paraît que l'armée attaque la neige.
Et oui, justement. Mais du coup, parce que ça a foutu un petit peu le bordel dans Paris, hein, on peut pas dire. Et du coup, ils ont sorti, ils ont fait appel aux militaires. Donc, forcément, ça fait bizarre de voir les blindés attaquer la neige. Enfin, et on se demande ce qu'ils vont sortir la prochaine fois. C'est vrai que c'est quand même assez difficile à prévoir, mais bon, l'armée contre la neige, contre le général Neige, bien sûr, c'est un peu spécial. Donc on commence un mois de décembre qui est exceptionnel, dans une ambiance exceptionnelle.
Ils ont porté plainte contre Météo France, non, d'ailleurs, je crois, non ?
Oui, ils ont dans l'idée de le faire, oui. Et même, je crois qu'il y a une action de justice carrément contre la neige. Et puis même, je pense qu'ils sont en train de menacer, si des flocons tombent, ils vont tirer dessus, quoi, carrément.
Non, mais il me semble que, comme tu disais, Cyril, que notre président et puis un ministre, ont un peu condamné, mais sans passer par les tribunaux, mais Météo France... parce que, soi-disant, ils n'avaient pas été alertés suffisamment par rapport à la neige qui est tombée la semaine dernière, et que du coup, ils n'avaient pas pu prendre
Devants.
Les devants, ouais.
Voilà. Ah, ils les ont bien pris, hein, et dernièrement, hein, un peu trop même, mais bon, c'est pas grave. Enfin, elle est là, hein. Profitez-en, c'est exceptionnel, c'est super agréable, et puis les paysages sont magnifiques.
Ce qui est intéressant, c'est de voir le traitement médiatique de la chose. C'est-à-dire qu'on regardait auparavant, quand il y avait la neige, on montrait plutôt les enfants qui jouaient. Les enfants jouent toujours aujourd'hui quand il y a la neige, ils sont super contents. Mais là, on montre plutôt les gens qui sont aigris dans leur voiture en général, des choses comme ça. C'est vrai que c'est un peu dommage justement de diaboliser ce phénomène climatique qui est finalement un symbole de joie parfois.
Oui, tout à fait, plus ou moins normal, un peu tôt, mais
travail,
plutôt normal.
Il ne faut pas travailler.
C'est très bien.
Voilà, pour un petit sujet d'actualité. Et on va tout de suite enchaîner sur notre citoyen du monde. Ralette, il y a plein de choses à nous dire, vraiment intéressantes en plus.
Ta-ta-ta-ta-ta. Alors, citoyen du monde, salut, c'est Ralette. Par quoi je commence déjà? On avait dit...
Cancun.
Ah oui, c'est vrai. Vous le saviez pas?
Là-bas, où il fait chaud.
Ouais.
C'est bah, où, Cancun?
Au Mexique, il y a eu une réunion de plusieurs experts internationaux et surtout de personnes représentant des gouvernements à Cancun. Sauf qu'on n'a pas trop parlé, je dirais, aussi bien dans les mouvements militants que dans les mouvements aussi institutionnels et médiatiques dominants. Mais il y a quand même des articles qui ont été pendus dessus, notamment sur Bastamag, par Sophie Chappelle, hein, un article signé Sophie Chappelle, sur Cancun, qui s'appelle Cancun, un accord à tout prix. Donc justement, en fait, pourquoi est-ce qu'on en a si peu parlé? Peut-être parce qu'on se rappelle surtout du fiasco, comme elle l'expose dans son article, en fait, donc du fiasco de la conférence de Copenhague de décembre 2009, où il y a eu beaucoup de déceptions, en fait, selon les médias dominants. Et parce qu'il y avait eu un accord qui n'était pas vraiment fameux. Donc du coup, en fait, voilà un peu ce qu'on se rappelle. Et finalement, donc, aujourd'hui, l'objectif, c'était de faire une sorte d'unité de façade. C'est-à-dire, en fait, une unité qui n'est pas vraiment réelle. Donc on va se focaliser sur des accords un peu logiques et un peu mous, hein, sur une augmentation de d'essayer de limiter, en fait, l'augmentation de température à 2 degrés Celsius. Vous savez ce qui se passe si on dépasse 2 degrés Celsius?
Hein? Il n'y a plus d'ours polaire.
Ouais, déjà. Je ne sais même pas si on aura au-dessous. Mais bon.
Il n'y a plus de glace, plus d'été.
Plus de pôle, sud et nord.
Alors, ce qui se passe, en fait, dès qu'on dépasse les 2 degrés Celsius, c'est qu'en fait, on arrivera à des situations où on ne pourra plus vraiment revenir en arrière au niveau du climat. Il y aura pas mal d'incertitudes qui se créeront. Et donc, c'est tous les scénarios catastrophes qu'on voit en général. C'est à partir de 2 degrés, une augmentation donc, de la température au niveau de la Terre de 2 degrés Celsius. Donc en fait, du coup, ils ont pris un accord là-dessus. Ils ont dit, bon, on va pas dépasser les 2 degrés Celsius. Sauf qu'ils n'ont pas mis en place, en fait, donc comment ils vont financer ça. Enfin, ils n'ont pas le même pas. Ils disent, voilà, on va essayer d'atteindre cet objectif-là. Quand, en gros, quelque chose de nouveau, c'est que les États-Unis, l'Arabie Saoudite, qui sont les ambassadeurs donc de chefs du tout pétrole, ont été, pendant leur discours, en fait, ont été noyés sous les applaudissements. Et il y avait même le Japon qui a pris des positions pour cet accord, tout ça, la Norvège. Enfin, ce qui est quand même assez emblématique. Donc, en fait, c'était un accord plutôt mou pour mettre d'accord tout le monde, quoi. Voilà, en gros, en fait. Et pour les choses sérieuses, en fait, tout le monde a dit oui, cet accord, il est génial. Du coup, tout le monde s'est mis d'accord, sauf la Bolivie, qui, elle, dit que finalement, c'est une sorte de Cancunhagen, pour Copenhagen, pour répéter un peu ce qui s'est dit dans le passé. Et il y a notamment, en fait, des personnes qui, enfin, dans la délégation française, qui a affirmé nous n'avons pas tué ni abandonné Kyoto à Cancun. Donc c'est Paul Watkinson qui dit ça. D'ici la prochaine conférence, des parties de Adurban, donc en 2011, donc qui aura lieu, en fait on appelle ça une conférence des parties, Conference of Parties, c'est les COP-MOP que ça s'appelle. Donc qui aura lieu donc à Adurban en 2011, et il nous faut réussir à associer la Russie et le Japon dans ce cadre. Donc voilà, en fait, en gros, ils remettent à plus tard les problèmes. En gros, ils disent bon, voilà, on se met d'accord en général sur ça, on met d'accord les problèmes. Mais c'est pas fini, hein, en fait. Il y a eu une reconnaissance quand même au niveau du travail scientifique du GIEC, de reconnaître les 2 degrés déjà, même par les États-Unis, c'est quand même pas mal. Et avec même un objectif de renforcer cet objectif à ne pas augmenter au-dessus des 1,5 degrés. Donc il y a eu quand même des évolutions, mine de rien, mais qui se restent très limitées parce qu'ils ne se donnent pas, en fait, de quotas à ne pas dépasser. Alors que Kyoto, c'était un système de marché qui était complètement pourri, déjà, on pourrait dire, mais qui fixait quand même ces quotas-là, ce qui était déjà une avance par rapport à rien du tout. Donc voilà, en fait, en gros, où on en est actuellement avec ça. Il y a eu des affirmations, en fait, comme Nathalie Kosciusko-Morizet qui a dit qu'à Cancun, il y a une avancée très importante, qui a eu lieu. C'est intéressant aussi d'en parler. Donc, le constat un peu des ONG, c'est que voilà, c'est un peu décevant et en fait, même la France a pris une position qui était encore moins en avance que celle qu'elle prend par rapport à l'Union européenne, où ils fixent des objectifs, en fait, temporels, de 20 à 30% de réduction d'ici 2020 au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Donc on recule, en fait, beaucoup, et l'accord a été beaucoup vidé de sa substance à terme, en fait, même s'il y a des choses positives en termes de solidarité internationale qui sont sorties dedans.
Donc, après Flopenhague, on a Flop Cancun.
Il est mieux que Flopenhague pour l'instant, mais qui reste très limité. Et c'est vrai que c'est un peu, voilà, les populations concernées, elles n'ont pas trop leur mot à dire dedans toujours, même si on essaie de ralentir un peu la déforestation dedans. Voilà, en gros, c'est un peu le constat généralisé, sachant que la Bolivie, elle est complètement contre et elle est accusée même des fois de bloquer un peu les accords et tout ça. Alors qu'en fait, elle joue le rôle de contre-pouvoir des pays du Sud.
Mais on n'est pas sorti d'affaire, hein, encore.
Bah, c'est intéressant, mais c'est dommage qu'on ait raté un peu la médiatisation de tout ça, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant.
Mais pourtant, le temps presse, parce qu'en plus, il y a l'histoire du pic de pétrole.
Oui, alors, en plus du changement climatique, il y a le problème du pic de pétrole. Et là, en ce moment, il y a des choses vraiment beaucoup plus optimistes, on pourrait dire, qui sont en train de se mettre en place. Il y a le dernier numéro de Silence qui parle des villes en transition. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, vous connaissez un peu, non ?
Un petit peu, oui.
Et alors, vous en pensez quoi ? Vous dites quoi ? Qu'est-ce que c'est pour vous, les villes en transition ? Vous arrivez à identifier ou non ?
Ils en parlent beaucoup, mais peut-être pas exactement de la même façon que Politis. On parle beaucoup de villes qui essayent de changer leur bilan énergétique, donc de commencer à envisager de nouvelles lois qui permettraient de revenir, enfin, diminuer la consommation générale. Mais c'est pas très, très, très clair.
Les villes en transition, en fait, il y a un concept qui est très intéressant dedans. C'est... tu veux dire quelque chose ?
Non, il me semblait que ça partait surtout des citoyens.
Exactement, en fait. C'est une démarche qui n'est pas institutionnelle, en fait. Même si l'État, maintenant, commence à récupérer les mots comme transition, tout ça, parce que c'est des thématiques... Enfin, le mot transition, en fait, ça peut être très béné... Enfin, c'est pas le développement durable, on est loin de tout ça, hein, mais ça peut s'en rapprocher un peu, ils peuvent jouer là-dessus. Mais en fait, ça se passe surtout sur le concept qu'on appelle de résilience. Alors, en fait, Silence, ils ont fait un mot sur la résilience, un numéro sur la résilience. Et alors, la résilience, je pense que c'est un mot qui est un peu compliqué à comprendre dans nos sociétés actuelles. Et en gros, ça signifie que, en gros, dans le domaine de l'écologie, le terme de résilience, donc dans ce numéro de Silence, ça signifie que c'est un terme qui fait référence à la capacité, en fait, d'un écosystème à s'adapter à des événements chocs extérieurs et à des changements imposés. Donc, dans le cas donc, des communautés humaines, le mot renvoie à leur capacité à ne pas s'effondrer au premier signe de pénurie, de pétrole ou de nourriture, mais au contraire à réagir à ces crises en s'adaptant. Donc voilà, en fait, c'est une forme d'adaptation au choc écologique qu'il pourrait y avoir par rapport si on n'a plus de pétrole d'ici du jour au lendemain, et donc de se préparer mieux à ça. Et ça, c'est un truc qui est en train de se mettre en France. Là, à Paris, il y a des mouvements qui commencent à se construire là-dessus.
Ça a commencé en Angleterre, non ?
Ça a commencé en Angleterre, en fait. Là-dessus, il y a un manuel, en fait, qu'on appelle le manuel de transition, qui est en vente. Vous pouvez demander à Silence ou d'autres... Enfin, on ne le retrouve pas trop dans les circuits normaux, mais bon. En fait, il y a Rob Hopkins qui a écrit le manuel de transition, qui c'est de la dépendance au pétrole à la résilience locale. Et justement, qui explique un peu comment mettre en place ces manières-là de sortir du pétrole. Et ça se base surtout sur un concept en fait général qui s'appelle la permaculture, en fait, qu'on pourrait définir comme étant une forme de culture permanente ou d'agriculture permanente. En gros, c'est une façon d'utiliser un peu l'écosystème pour arriver à être autonome au niveau local.
Ça rejoint le concept de durable.
Oui, sans mettre le concept de développement dedans. C'est plutôt en fait la base de tout en Angleterre. Quand ils l'ont fait, c'est la sortie du pétrole. En gros, comment on sort du pétrole et comment y arriver, pas obligatoirement de façon institutionnelle, mais en prenant tout ce qu'il y a en fait dans le système pour arriver à en sortir. Et par rapport à ça, en fait, donc ils sont partis des besoins. Et le premier besoin qu'on a, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, c'est le besoin alimentaire, la résilience qu'ils appellent alimentaire, donc l'adaptation en fait de décarboniser tout ce qu'il y a au niveau alimentaire, parce que quand on voit que nos pommes ou je sais pas quoi, elles font le tour du monde, ou les fraises qui viennent d'Espagne alors qu'elles sont même pas de saison, ou des choses comme ça, bah, elles sont vachement carbonisées, et donc de sortir de tout ça. Et le moyen, en fait, c'est de se baser donc sur ce concept un peu psychologique de résilience, d'adaptation au choc, et de sortir tout ça, en fait, à ce niveau-là. Et ce qui est intéressant, en fait, dans la vision, c'est aussi, même par rapport à la décroissance, en fait, le pic de pétrole, en fait, quand on le voit, donc, puisque c'est la thématique, en gros, c'est on monte, en gros, on produit du pétrole, on en produit, une courbe montante, et c'est un peu comme une montagne, et après, on arrive au pic, donc, de pétrole, on pique de la montagne, et on redescend. Et donc du coup, en fait, Rob Hopkins lui dit, en fait, dans la réalité, il faudrait peut-être qu'on reprenne ça différemment et qu'on regarde plutôt comme un fossé Le fait qu'on consomme encore plus de pétrole, c'est un fossé dans lequel on s'engouffre, qui est de plus en plus obscur, et on aura encore plus de mal à remonter si on s'y enfonce encore. Et enfin, je trouve cette vision un peu assez intéressante, en fait, de se baser sur une notion un peu économique, on pourrait dire de la croissance, de la décroissance. C'est, enfin, je dis pas que c'est bien ou mal, mais c'est assez réel de s'engouffrer. Enfin, plus on consommera du pétrole, plus on va s'engouffrer, et plus on aura du mal à s'en sortir.
Mais c'est vrai que ça paraît difficile quand même d'agir sur la ville sans passer par les politiques, parce que c'est quand même eux qui chapeautent un peu tout. Et là, je discute avec un ami de Saint-Quentin-en-Yvelines. Et qui avait pour projet de planter des arbres fruitiers au lieu des platanes ou des tilleuls qui font même pas de tisane. Et on lui a dit que ça allait rompre l'harmonie architecturale de la ville. Donc c'était impossible de rajouter des arbres fruitiers ou autre. Donc t'as quand même le politique qui gère vachement.
Ouais, enfin après ça pose la question sur le politique. Est-ce que le politique c'est seulement ce qui est institutionnel et électoral, ou est-ce que le politique c'est savoir vivre ensemble et d'agir ensemble? Je pense que c'est une question qui pourrait se poser à ce niveau-là. Et au bout d'un moment, je pense qu'en tout cas, par rapport à ces villes en transition là, ce que je trouve intéressant dans la démarche citoyenne, c'est qu'il n'y a pas tout ce qui est hiérarchique et bureaucratique qui freine. S'il faut agir, ben on peut agir plus efficacement. Enfin, c'est ce que j'ai compris avec des systèmes comme les collectifs ou des choses comme ça.
L'initiative citoyenne.
Une initiative citoyenne peut être beaucoup plus efficace, en fait. C'est sûr qu'à un moment, il faudra aller voir le politique, mais le politique, il bougera que si on fait la pression. Donc, dans les deux cas, pour moi, le politique doit bouger, d'accord, mais s'il ne le fait pas, il faudra bien agir. Et c'est ça que je trouve intéressant dans ce concept un peu là, c'est la démarche citoyenne, quoi, de part.
Prendre les choses en main.
Et plutôt de temps, voilà. Et s'il faut faire avec le politique, il faut faire pression dessus pour arriver à ce qu'il change les choses. Mais bon, moi je trouve ça plus intéressant que, enfin après c'est sûr que se baser sur, enfin en plus ce qui est intéressant c'est que dans leur concept ils se basent pas sur le concept de survivalisme. Enfin, ils vont pas se mettre en autarcie dans leur coin. Ils essayent vraiment de communiquer ça partout dans le monde, et c'est pour ça qu'en France d'ailleurs à 50 ans en Yvelines, il y a 50 ans en Yvelines en transition qui est en train de se mettre en place. Il y en a à Paris, il y en a dans d'autres villes en France, et ça va monter de plus en plus. C'est un concept qui va monter. Je pense qu'un jour, on fera une émission là-dessus. Et c'est intéressant de se baser sur l'autosuffisance alimentaire. Ils ont même certaines données pour analyser en fait, les résiliences dans certaines villes qui sont basées sur justement le pourcentage de nourriture produite localement, par exemple. Ça peut être un curseur en fait, pour analyser ça. Sur le pourcentage d'échanges locaux effectués en monnaie locale, parce qu'ils parlent, en fait, ils ont quand même pas mal comme alternative la monnaie locale ou les échanges locaux. Les travailleurs employés localement, combien est-ce qu'il y a d'entreprises qui sont détenues localement par des personnes et pas par des multinationales qui sont à l'autre bout du monde. Enfin, plein de choses comme ça. Le pourcentage d'énergie produite localement. Enfin, il y a plein de... En fait, par la démarche citoyenne, ils sont arrivés à créer plein de choses que nous, on voit qu'économiquement ou énergétiquement même, et qu'eux, ils voient d'une autre façon. Au niveau alimentaire, par exemple, je trouve ça plus intéressant d'analyser en fait, nos besoins, parce que c'est peut-être le premier besoin qu'on a par ces choses-là. Donc voilà, en fait, sur les villes en transition, donc ce numéro de silence, sur la résilience, surtout, en fait, hein, il se base là-dessus. Il a fait un bon dossier. Et j'invite des personnes à aller voir le lire, enfin, à le lire ou de voir avec nous, en fait. Il y a même, par rapport au service public, il y a des questions qui sont posées dedans. Qu'est-ce que la résilience dans un service public? Des choses comme ça. Voilà.
À lire au coin du feu. Au chaud, au coin du feu, pendant que la neige tombe dehors. Un autre thème. Heureusement, là, on part direction la chaleur, de nouveau. En plus, c'est encore d'actualité. Tu nous parlais de France-Afrique.
Ah oui. Alors par rapport à la France-Afrique, là je parle beaucoup aujourd'hui. Je sais pas, Élise, tu veux en parler un petit peu, parce que
tu as regardé un petit peu
Citoyenne du monde numéro 2, histoire que je monopolise pas la parole.
C'est vrai qu'on voit beaucoup, on entend beaucoup parler de Gbagbo et de comment il s'appelle, Ouattara. Et on se demandait, mais qui est ce second monsieur? Et du coup, Khaled a fait des petites recherches. Voilà, juste en tant que... Voilà, pour s'informer.
Et qu'est-ce qu'on a trouvé derrière?
Alors, qu'est-ce que t'as trouvé? Alors,
grâce à Internet, surtout. J'ai regardé sur Wikipédia.
Par rapport aux élections...
En fait, oui, ce qui se passe actuellement, c'est... Enfin, en fait, la question que je me suis posée de base, c'est pourquoi est-ce qu'on en parle autant dans les médias? oh mon Dieu, Gbagbo, il a pris le pouvoir alors que c'était pas vraiment lui, c'est la commission indépendante. Alors, c'est qui la commission électorale indépendante, la CEI, qui écrit dans les journaux, je sais pas qui c'est, hein, toujours, j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé. Et en fait, c'est assez intéressant de comprendre pourquoi est-ce qu'on médiatise ça. Et il y a deux événements qui sont arrivés dans les dernières semaines qui m'ont ouvert pas mal les yeux. Le premier, c'est Internet, où je me suis intéressé à la question. J'ai regardé sur Wikipédia, en fait, et on a vu que le gars qui était opposant donc, à Gbagbo, c'était un mec qui était ancien directeur du FMI en Afrique de l'Ouest. Donc, on voit directement les positions politiques et économiques, surtout de ce genre de personnes. Le FMI défend quand même les intérêts, surtout des Occidentaux, même s'il essaye de cacher un peu ça. En tout cas, c'est comme ça qu'il est vu aujourd'hui. D'un autre côté aussi, par rapport à sa femme qui détient pas mal, qui est une femme d'affaires qui détient pas mal de sociétés immobilières. Et surtout, en enquêtant sur sa femme, j'ai découvert que cette personne vivait en France. Alors justement, là, je me suis dit, tiens, il vivait en France, c'est incroyable. Quelle coïncidence. Ils se sont mariés donc à Neuilly. Ils ont été mariés par le maire de Neuilly de l'époque à ce moment-là. Alors, je ne me rappelle plus de l'année exactement. Et c'était Nicolas Sarkozy. Et oui, ta-da-ta-ta. Et en fait, si on nous en parle autant, je me suis dit, tiens, bah là, je comprends mieux pourquoi on nous en parle autant, quoi. C'est que cet opposant politique, il avait quand même des relations, en fait, néocolonialistes. Excusez-moi le terme.
Un pied dans l'Occident, quoi.
Un pied dans l'Occident qui était très fort et très proche de notre pouvoir actuel, même s'il n'en parle pas trop.
Gbagbo
aussi, il a un pied dans l'Occident parce qu'il travaille pas mal, donc lui de son côté. Et c'est ça qui là, ça je suis pas toujours arrivé à comprendre. Donc peut-être parce qu'il était plus de gauche, ou peut-être parce qu'il se dirigeait plus vers les Américains, j'en sais rien. Parce qu'enfin, pour investir dans le pétrole dans son pays ou dans les infrastructures.
Je crois que tu as dit un mot important là.
Américain ? Non. Ouais, bon, il y a un rapport de force au niveau international, mais bon, c'est pas ça le principal truc. C'est juste qu'en fait, au niveau du pays, il y a des matières premières et des ressources qui sont importantes pour la France-Afrique. La France-Afrique, vous avez compris. Donc, du coup, dans ce cadre-là, on parlait du pic de pétrole tout à l'heure, hein, donc justement, ou ELF, des sociétés comme ça, donc dans un reportage donc, sur France 2 qui est passé. Récemment, qui s'appelle La France-Afrique, je ne me rappelle plus exactement, enfin, il y a un rapport avec l'argent, justement, la soif de l'argent, quelque chose comme ça. L'argent roi, merci Élise, qui est passé dessus et qui explique justement pas mal de choses sur comment on a colonisé l'Afrique, comment on a essayé de s'accaparer les matières premières, enfin, on a réussi à s'accaparer les matières premières de là-bas et en plus à maintenir des relations avec le pouvoir. Sachant que le pouvoir, en fait, en Côte d'Ivoire, Gbagbo, il dérangeait pas mal parce que c'était pas celui que les colonialistes français voulaient. Il y en avait d'autres, et notamment peut-être que cette personne-là, du FMI, était plus proche des idées occidentales que M. Gbagbo. Je dis pas que Gbagbo est une bonne personne, hein, je fais pas de partisanat, mais c'est quand même intéressant de se dire pourquoi est-ce qu'on nous parle tellement de cette république bananière-là, plutôt que d'une autre république bananière. Il y a des intérêts dedans, des intérêts économiques, mais aussi des intérêts politiques. C'est des intérêts de pouvoir, même, je dirais, plus que économiques, en fait, à ce niveau-là.
Ils retrouvent le pétrole probable raison majeure, d'ailleurs, de ce qui se passe actuellement.
Alors, mais là, il n'y a pas que la Côte d'Ivoire, là. Il y a les autres pays aussi d'Afrique qui sont touchés. Hein,
même
le Nigeria,
France,
par rapport à Eva.
Même la
France. Protège vraiment bien.
Il y a une info qui circule dans les journaux actuellement où les Américains sont en train d'investir dans des puits français pour récupérer du pétrole, donc le pic de pétrole.
Ouais, on doit en avoir beaucoup.
Peut-être des gisements cachés.
Il y en a sur Paris, pareil. Ouais. Bon, enfin voilà, c'est quand même assez anecdotique.
Et on parlait de mariage, hein, Nicolas Sarkozy qui a marié...
Oui.
Monsieur, j'arrive jamais à dire son prénom, son nom de famille.
Ouattara.
Il y a aussi un autre mariage qui a été célébré dans la presse et dans le monde industriel. C'est le mariage de Monsanto et de Gates.
Et oui, mes frères et mes sœurs. Donc, la fondation Bill et Melinda Gates, dédiée officiellement à des projets philanthropiques, philanthropiques.
Oui, ils aiment les hommes.
Donc, il vient d'acquérir 500 000 actions de la société Monsanto.
Et Monsanto, ouh, il aime les hommes aussi.
Je sais pas, mais en tout cas, grâce à ce que a donné donc Bill Gates et tout ça, ils vont pouvoir se relancer donc dans l'alimentaire au niveau de l'Afrique. Et surtout, en fait, ça montre une connivence, en fait, un réseau de connivence que nous on a chez les écolos et d'autres encore. On disait il y a bien longtemps, quoi.
S'il y a autant de bugs dans les OGM de Monsanto que dans le système d'exploitation de Microsoft, on est mal barré.
Exactement. Microsoft qui détient donc, en fait, on a ici l'union des deux monopoles les plus cyniques et les plus agressifs, aussi bien au niveau de l'informatique que de l'alimentaire, pour les OGM du moins. Alors 90% de la part de marché de l'informatique pour donc Microsoft et 90% du marché mondial des semences transgéniques et donc de la majorité des semences commerciales du monde pour le Monsanto. Donc ça fait du bien de se dire, c'est bien, ils font leur coming out, quoi. C'est bien, parce que la fondation Bill Gates était un petit peu trop philanthropique, là. Ils en faisaient trop et tout ça, ils allaient voir les personnes puissantes de tous les pays, ils disaient, ouais, faites des trucs pour les gens du tiers-monde. Là, ils viennent s'allier quand même, déjà depuis 2006, avec la fondation Rockefeller, hein, donc là aussi de sacrés balèzes, hein, par rapport à la révolution verte et par rapport aux OGM. Et donc, ces deux grands humanistes donc, vont investir fortement. En fait, ils sont alliés en fait, à ce qu'on appelle l'AGRA, l'Alliance for a Green Revolution in Africa. Ça revient un peu à la France-Afrique, là, attention.
Le
hein.
sauvetage du monde est entre de bonnes mains.
Là. Exactement, et c'est entre leurs mains, eux, à Monsanto, donc, qui affame aussi le monde, hein, se dit en passant, et donc à Microsoft, qui affame d'une autre façon le monde par les richesses. Donc justement ils sont alliés à ce niveau là et donc il y a environ donc 70% des bénéficiaires de l'AGRA qui sont au Kenya et qui travaillent directement avec Monsanto et près de 80% donc, des financements de Gates dans le pays seraient dédiés aux biotechnologies comme par hasard vous me direz donc voilà en fait par rapport aux OGM hein, surtout donc on voit bien une connivence, moi je trouve ça intéressant de voir que qui se ressemble s'assemble, et voilà ce que je voulais dire là-dessus, par rapport à ces deux fondations-là, la fondation donc Rockefeller, la fondation Bill et Melinda Gates, qui vont acquérir des nouveaux marchés grâce à Monsanto.
Moi j'ai qu'un mot à dire, noyeux Joël, hein, quoi, oui. À tous.
Sans OGM j'espère.
Et d'ailleurs on va passer au cadeau aussi, hein, un cadeau, et on va passer à un cadeau empoisonné là. On va parler de l'OPSI 2. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu?
Une petite chanson.
On va peut-être faire une petite pause parce que pour se mettre en place, se mettre en jambes.
Une chanson qui va nous mettre déjà un peu dans l'ambiance. Allez, joyeux.
C'est la belle nuit de Noël. Dans le fourgon, c'est l'allégresse. Les casques pointés vers le ciel, émus les petits CRS, avant de fermer leur visière, font une dernière prière.
Petit passois Noël, quand tu descendras du ciel, avec des matraques dorées, n'oublie pas ton traîneau blindé. Car avant de partir, il faudra bien te couvrir. Les gens sont si durs avec toi, oh mon pauvre petit passoir.
Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si nos pauvres vont charger. Et puis matraquer tous ces jeunes en grève que nous t'avions commenté.
Petit passois Noël, quand tu descendras du ciel avec des matraques dorées, n'oublie pas ton traîneau blindé. Petit passois Noël.
Allez-y, allez, sous mes flammes vidéo. Allez.
Oh, oh, oh. Ça sent le sapin. Eh ben, on va parler de la loi LOPSI 2.
Alors, LOPSI 2, on en a à moitié beaucoup entendu parler. Donc moi, j'ai vu quelques mails, quelques... Voilà, le mot passé à droite, à gauche, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est donc, cette bête-là? Donc, en fait, la loi de LOPSI 2, donc pour en venir un petit peu à ses origines, c'est une loi qui a été déposée par Nicolas Sarkozy lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Et le texte vise à modifier les moyens juridiques et sécuritaires afin de renforcer la lutte contre la délinquance et contre la criminalité. Donc cette nouvelle loi doit privilégier, donc selon le président de la République en 2007, doit privilégier le redéploiement de moyens existants et le renforcement de la police technique et scientifique. Donc LOPSI 2, donc, c'est une loi pour la sécurité intérieure. Donc cette loi a été adoptée par le Parlement en juillet 2002, puis votée par le Sénat, puis le 14 décembre, elle a été examinée par les députés. Et elle vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale, donc ce mardi 21 décembre. Donc, normalement, elle devrait subir encore quelques modifications par le Sénat en janvier 2011. Donc cette loi touche plusieurs points. Donc la cybercriminalité, les fichiers de police, la vidéosurveillance, les expulsions locatives. Donc on peut rapidement faire un petit point là-dessus. Donc la vidéosurveillance n'existe plus. Maintenant on va parler de vidéoprotection. Et les préfets peuvent décider d'une utilisation accrue de la vidéosurveillance, même si les communes y sont opposées. Et là il va y avoir une augmentation de ces vidéosurveillance. Il y a aussi par rapport à Internet, donc on entend qu'ils veulent, qu'il y a une volonté de lutter contre la pédopornographie ou des choses comme ça. Et du coup a été inventé le délit d'usurpation d'identité sur le net. Pour passer.
C'est c'est deux choses différentes en fin de compte. Le délit d'usurpation d'identité, là où il est dangereux, c'est qu'il risque de s'attaquer vite fait à coller des procès en diffamation pour n'importe quoi, pour des gens qui auraient peut-être simplement un avatar avec la tronche de Sarkozy. Officiellement, c'est pour des gens qui se feraient passer par d'autres, mais ça comporte des trucs assez inquiétants par rapport à ce qui serait la caricature sur Internet, soit dans des pseudos, soit dans des avatars, etc. Le filtrage, c'est autre chose. Donc effectivement, c'est le prétexte de la pédopornographie qui est invoqué. Alors, je sais pas, il y a un gros fantasme là-dessus. Les députés UMP ont l'air de nous dire que c'est quand même choquant de recevoir des mails pédopornographiques dans ces mails. Moi, j'en ai jamais vu. Il paraîtrait qu'il y aurait 40 millions de sites de pédopornographie. Moi, j'ai vu ça, je suis tombé de ma chaise. Je croyais connaître Internet et non. Donc...
Ce que je sais, c'est qu'on reçoit souvent des sommes de trucs qu'on regarde, donc je sais pas ce qu'ils regardent les députés.
Ouais. Bon, après, il y a du porno, il y a des sex shops dans la rue, il y a des magazines dans les librairies, il y a des vidéos dans les vidéoclubs, il y en a sur Internet aussi. On reçoit aussi beaucoup de pubs Viagra, etc. Hein, ça, c'est encore autre chose. Par contre, la pédopornographie, en fait, ils sont complètement à côté, puisque les réseaux qui s'échangent ce genre de trucs, ça fait longtemps qu'ils ont largement anticipé tout ça, que de toute façon, ils sont déjà... à ma connaissance, il n'y a pas de site, de portail public, monenfantapoil.com ou ce genre de trucs, ça n'existe pas. Enfin, faut être réaliste, quoi. Leur système de filtrage, ça va être complètement inefficace puisque ces réseaux-là utilisent des réseaux privés que ont parfaitement connaissance de tout ce qui est crypto, etc. Et que même, c'est même encore plus les pousser à ça et c'est totalement inefficace. Il y a même un rapport qui est cité sur Reed Wright-Reb. Alors c'est un témoignage qui a été publié sur Wikileaks pour le coup, d'un informaticien qui a travaillé dans les réseaux pour les réseaux pédophiles, qui explique comment ça fonctionne. Et en fait, on voit bien que plus depuis des années ils essayent de d'imposer des filtrages, etc. sur le net, plus les réseaux anticipent ces choses-là et usent de tous les moyens. Donc c'est complètement inefficace et même pas contre-productif. Alors par contre, ce qui est plus à craindre, et ce qui est dénoncé par l'association L'Ange Bleu, qui est une association qui lutte contre la pédophilie et la pornographie, qui dénonce l'absolue inefficacité de la loi et le risque qu'elle fait courir sur la liberté d'expression, parce qu'on se doute très bien que les filtrages vont être étendus à plein d'autres choses très très rapidement.
Bah merci hein, Cyril pour ces infos supplémentaires. Et il y a aussi au niveau de la, dans cette loi, au niveau de la police municipale et de la sécurité privée. Donc maintenant, les policiers municipaux pourront avoir de nouvelles missions qui jusque-là étaient conférées aux officiers de police judiciaire, comme procéder à des fouilles, des contrôles d'identité, des dépistages d'alcoolémie. Et donc on va voir une augmentation de la privatisation des missions et le statut des entreprises de sécurité devrait être renforcé. Donc d'ici à quelques années, les effectifs sécuritaires du privé pourraient être même supérieurs aux effectifs de la gendarmerie et de la police.
Enfin, nous qui voulions une armée d'écolos, on est bien servis là. C'est pas une armée d'écolos.
Voilà. Et puis après, toujours dans cette loi, il y aura aussi une extension des dispositifs de fichage. Alors j'ai retrouvé un petit papier, notamment d'associations LGBT et anti-sida, qui dénoncent le dépistage sans consentement. Qui va être autorisé via cette loi. Donc voilà, le texte autorise le dépistage sans consentement de toute maladie virale sur un individu ayant agressé physiquement un fonctionnaire de police ou un gendarme. Et Brice Hortefeux a cité le courrier de l'épouse d'un gendarme mordu par une personne qui pourrait être contaminée.
Attraper la rage.
Voilà. Donc là-dessus, les associations ont informé des modes de contamination. Parce que c'est pas en étant mordu qu'on peut attraper le VIH. Quoi.
Joyeux Noël.
Et donc voilà pour un petit survol de la loi. Et c'était pour...
Alors du coup, moi je voulais construire une yourte pour plus tard.
Justement, j'y viens. En fait, il y a dans cette loi, il y a l'article 32 TER.
Tu vas vivre dans une cage en béton, comme tout le monde.
Qui en fait évoque les compétences du préfet. Et donc cette loi prévoit l'évacuation des campements illicites en cas de risque grave pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique. Et prévoit également l'incrimination des squatteurs. Donc il y a eu l'adoption d'un amendement qui a été proposé par Étienne Blanc, hein, je ne connais pas, qui vise à permettre l'expulsion des squatteurs et qui prévoit une sanction d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Et les squats pourront être expulsés sous 48 heures sur décision du préfet sans passer par un juge. Donc voilà, donc dès qu'on va installer un campement ou un habitat sur un terrain sous l'argument d'un risque lié à la sécurité, à la salubrité, à la tranquillité publique, on pourra être expulsé. Et donc là, je viens de voir une petite étude de la commission juridique du Transquad Paris-Montreuil qui explique que par cet article, on peut lire une attaque à l'encontre des habitants de bidonvilles, d'habitations de fortune, de campements de sans-abri, comme dans le bois de Vincennes, et également à l'encontre de personnes ayant choisi d'habiter caravane, roulotte, camion, tipi, yourte, auto et éco-construction. Toute construction sans permis de construire, comme il en existe beaucoup dans les dom-tom, pourrait aussi tomber sous le coup de cette procédure d'exception, car une construction sans permis est illicite. Cette procédure menace également les squatteurs depuis la nouvelle rédaction et l'ajout donc de l'amendement que je viens de vous lire. Donc voilà pour un petit peu survoler cette...
Donc je pourrais pas construire ma yourte, quoi. J'ai plus le droit. Je pourrais le faire, mais si je me fais avoir...
Si le préfet pense
c'est illégal, quoi.
Que c'est un risque, que ta yourte est un risque pour la tranquillité publique, tu peux être expulsé sous 48 heures.
C'est vrai que c'est un gros risque... yourte pour la tranquillité publique. Je suis d'accord avec lui.
Ça ne touche pas les propriétés privées, hein. C'est que le public, j'imagine.
Pourtant, sur M6, ils demandent plein d'émissions où il y a des gens qui ont des yourtes, c'est des écolos. Je n'ai pas à dire, mais moi, j'ai vu ça sur M6. Mm-hmm. Ils sont contre ça. Alors.
Après, je vous conseille de vous-même aller voir un petit peu la loi parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes. Et c'est vraiment important de savoir ce qui se prépare. Donc là, il y a un appel à une assemblée publique le 8 janvier 2011 à 17h au Bourbon, 7 boulevard Bourbon, métro Bastille. Voilà, donc le 8 janvier 2011 à 17h, 7 boulevard Bourbon, métro Bastille. Voilà, pour un petit peu parler de cette loi qui va mettre en place la vidéoprotection, parce qu'on sera protégé, parce qu'on est avec toute cette surveillance.
Ou la vidéosurveillance.
Et aussi, voilà, comme c'est Zoom Écologie, bah, c'est vrai que l'habitat, ça fait partie aussi d'une façon de
l'information aussi.
Voilà. Et puis voilà, ça touche aussi à la ville. Et...
Je rajouterai une petite information. Il y a Veiller Soins en Lutte, le serveur de Soins en Lutte, qui va y avoir une information sur là-dessus qui va sortir demain ou pas très longtemps.
C'est un reportage sur la manifestation qui a eu lieu il y a deux jours contre cette loi, au moment où ça a été voté.
Et dans la surveillance, il y a aussi l'officialisation, la généralisation des écoutes. Tout ce qui est écoute téléphonique, internet, avec l'autorisation légale de la pose de mouchards sur les ordinateurs de suspects. Alors, suspect de quoi ? Bah, ça va très loin, puisque ça touche jusqu'au délit de solidarité, etc. Donc, pose de mouchards à distance ou physiquement, après, dans la pratique... On attend de voir ce que ça va donner, mais ça fait un peu peur.
Ouais. Moi, je fais un petit message à mon frère. Alex, toi qui voulais vivre tranquille dans la forêt.
Trop tard.
Trop tard.
Et bien justement, à propos de forêt, on va passer à la rubrique suivante, qui sent le sapin.
Ça sent le sapin.
Directement, là, en plus, on touche les sujets sur Noël, et on n'aura pas beaucoup de temps pour en parler, donc il va falloir vivre vite. Qui est-ce qui voulait nous parler de sapin?
Bah, moi, je pensais que c'était une bonne idée de... parler de Noël sous un angle écologique, et puisque le sapin c'est un peu le symbole emblématique de Noël, tout le monde veut en avoir un dans sa maison, et pareil qu'on vend en France 6 millions de sapins chaque année, surtout à Noël comme c'est marqué dans le petit rubrique que j'ai lu, dont 5 millions de sapins végétaux, le reste étant des sapins artificiels. Et donc, on se posait bien la question, enfin, je me posais la question, est-ce que, parce que moi, je me suis jamais gamine, ma mère insistait, est-ce qu'on avait un vrai sapin et que c'était en plastique, c'était pas bien et tout. Donc, je me posais maintenant, quelques années plus tard, la question, est-ce que finalement, c'est bien qu'on coupe tous les arbres, quelles sont les conséquences sur l'écologie? Donc, je me suis un petit peu penchée sur le sujet. Sur le net, donc bon, après on trouve ce qu'on trouve, on peut discuter de ce que je vais vous raconter, bien sûr. Mais il y a eu une étude qui a été faite, une étude d'analyse de cycle de vie indépendante réalisée par Ellipsos, une firme québécoise d'experts conseils en développement durable, qui a révélé qu'un arbre naturel génère 3,1 kg de gaz à effet de serre, tandis qu'un arbre artificiel, on émet 8,1 kg par année. Bon, on peut dire que le gaz à effet de serre, c'est un des critères qu'on peut évaluer par rapport à l'impact écologique. Mais du coup, on peut s'imaginer que bon, pourquoi c'est autant ? Parce qu'un arbre artificiel, on peut la garder plusieurs années, n'est-ce pas ? Mais il paraît que les gens, en fait, ils les gardent finalement pas beaucoup de temps, 3 ans environ. Et du coup, l'énergie et les matières qui sont utilisées pour faire des sapins artificiels sont vraiment pas très écologiques. Même si on peut les réutiliser, c'est paqué à partir de PVC ou plastique ou encore aluminium. Et souvent, le plastique est issu du pétrole, donc tout le monde sait que c'est une matière fossile non renouvelable. Et ils sont en plus quasiment tous importés d'Asie. Donc évidemment, il y a un coût de transport énergétique assez important avec tout l'impact carbone, etc. Mais bon, les sapins qu'on achète qui sont des vrais arbres, on est censé comprendre que couper les arbres, c'est pas bien. Alors il paraîtrait que les arbres qui sont les sapins qu'on achète, ce sont des arbres qui sont poussés pour cela. Et d'ailleurs... Ils sont donc pendant leur cycle de vie, ils incorporent une certaine quantité de CO2, donc c'est bénéfique pour la planète. Mais il faut être vigilant parce que les transports qui sont utilisés pour les sapins sont évidemment une des critères pour transporter les sapins naturels. C'est une des critères dont on peut se poser des questions. Donc du coup, il y a le choix de différentes sortes de sapins. Certains sapins viennent de Danemark, par exemple. C'est le cas des Nordman. Les Nordman sont un peu plus jolis, tiennent leur épine plus longtemps. Mais ils sont importés, donc ils ont un coût énergétique pour le transport beaucoup plus important que les épicéas. Ce sont des arbres, des sapins qui poussent plutôt en France. Et donc les épicéas, c'est plutôt 80% des sapins naturels qui sont donc en effet issus des productions en France. Mais alors, est-ce que c'est quand même important de couper les arbres et après les jeter à la poubelle? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? D'ailleurs, je me pose la question, est-ce que c'est indispensable? Moi, à quoi ça sert un sapin déjà
en fait? Moi, j'ai décoré ma plante verte, personnellement. Avec
pas acheté de sapin.
Pourquoi on achète des sapins finalement?
Moi, je trouve ça un petit peu bête. Le sapin, en fait, il y a toute une historique.
Il y a toute une historique, en fait, symbolique. Traditionnellement, c'est parce que le sapin, moi je simplifie beaucoup parce qu'il y a bien sûr toute une historique très, très ancienne, mais le sapin a été choisi à cette époque-là de l'année parce que c'est un arbre qui garde sa feuillage verte tout l'hiver. Donc en fait, c'est symboliquement, donc presque toutes les histoires, c'est le symbole de la vie qui perdure, la vie qui se renouvelle, qui est important. Donc c'est finalement assez logique de couper ce sapin, de le foutre à la poubelle. Bon, du coup, il symbolise plus du tout la vie qui se garde parce qu'il
est mort. Oui, parce qu'en fait, tout le CO2 qui est dedans, il est rejeté, s'en fout de la
poubelle. Tout à coup, oui, il est rejeté.
Écologiquement, il est naze, quoi.
Bon, si vous êtes absolument obligé pour des raisons traditionnelles ou vous avez des gamins qui insistent, etc., il faut quand même de toutes les manières penser à qu'est-ce qui va devenir cet arbre. Il y a quand même des solutions pour amoindre le résultat du... Parce qu'évidemment, on coupe un arbre, il faut quand même aussi... Il faut le jeter d'une manière le plus écologique possible. Donc, il y a bien sûr toutes sortes de possibilités de faire recycler les sapins en compost, soit en la rapportant dans un parc ou par la mairie de votre habitation. Il y a tout un système la plupart des parcs à Paris ont un dépôt pour les sapins. Il y a bien sûr d'autres sortes de magasins que vous connaissez très très bien qui proposent d'acheter un sapin et de le rapporter. Et on vous rembourse pratiquement le coût de l'achat en bon d'achat. Donc, c'est plus ou moins écologique parce qu'ils vont recomposter le sapin. Mais en revanche, vous allez reprendre votre voiture et ramener le sapin. Et en plus, vous allez avoir un bon d'achat. Donc, vous allez quand même reconsommer quelque chose d'autre. Donc là, ça nous amène peut-être à l'autre question qui est très, très importante par rapport à Noël. C'est la consommation et les achats. Donc, on peut peut-être enchaîner avec cette grande...
Et puis, le repas.
Voilà. Donc, Noël, alors, c'est quand même la période de l'année où il y a le plus de consommation de toute l'année, de produits, de... d'achat,
d'énergie.
On continue sur quoi? Le repas.
On peut parler un petit peu du foie gras, histoire de...
À Noël, on mange.
Il y a des gens...
Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, l'alimentaire, c'est plus important.
Il y a des gens qui mangent du foie gras.
Il y a toujours un punk pour...
pour donner de la viande. Bon, alors,
moi, symboliquement, c'est presque aussi en France, en tout cas. Chez moi, je suis d'origine anglaise et galloise. Chez moi, ça n'existe pas, le foie gras. Mais on mange autre chose, bien sûr. Mais c'est vrai qu'en France, le foie gras, c'est aussi symbolique que le sapin pour Noël, n'est-ce pas? D'ailleurs, ça m'a fait penser à cette pub. Et puis, je pense que ça serait pas mal de démarrer avec l'idée de pourquoi on consomme à Noël, n'est-ce pas? C'est parce qu'on nous pousse à la consommation, tout simplement. C'est peut-être par ce biais-là qu'on peut attaquer la question.
Alors, je peux en parler en une minute. Oui. Si vous voulez, c'est la minute anti-pub. Avant de parler de la viande, on va parler de la pub. Alors, la pub, en fait, à Noël, moi, j'ai remarqué que c'est beaucoup... Enfin, ils sont très contents, les publicitaires, parce qu'il y a des cadeaux. Il y a des cadeaux, donc il faut que tu achètes un cadeau. Et donc, du coup, ils ont fait très, très fort. Ils ont fait des pubs pour Noël. Donc, Noël, déjà, il faut savoir ce qu'on voit, en fait, en termes de ce que j'ai analysé dans mon enquête sur la publicité à Noël. C'est, en gros, la couleur du rouge. Je trouvais ça vraiment très intéressant de voir à quel point les publicités... Bon, maintenant, il n'y en a plus. Hein. C'était il y a 2 semaines, surtout, qu'ils ont fait le gros rush sur ça avant que les gens ne partent en famille.
En fait, sur la Noël, et donc la couleur du rouge. Alors, la couleur du rouge, en fait, il faut savoir, c'est la couleur du désir. Hein, c'est la couleur, enfin, vous voyez la fille en rouge dans la Matrix. La Matrix, pardon, enfin, la Matrix qui passe et qui, du coup, capte l'attention. Donc, du coup, c'est la couleur un peu qui donne envie de consommer. Et c'est la couleur aussi de Coca-Cola, en fait. C'est Coca-Cola qui a généralisé cette couleur du Père Noël en rouge. Et c'est intéressant de voir que finalement, cette couleur a été récupérée par tous les publicitaires. Donc là, j'en ai une de Carrefour, là, qui est en rouge et blanc. Il y en a une de SFR pour acheter un nouveau portable. Hein, c'est quoi ce qu'on a dit tout à l'heure, ce téléphone portable enfin, bon. Sur la famille Noël, et ravi, pareil, couleur rouge et blanche. Non, ça, c'est pas bon. Il y a aussi le cadeau de Noël, bon là du tout qui est pas rouge, mais vous avez une publicité donc des trois Suisses avec trois filles dont une en vert, hein, il faut le remarquer, et deux en rouge avec un regard très qui évoque beaucoup le plaisir et le désir. Enfin, on voit bien cette tendance à vouloir nous manipuler, en fait, c'est ce qu'on appelle le marronnier. Même nous on joue un peu là-dessus parce qu'on parle de Noël, en fait c'est tous les ans, il y a des moments, il y a quelque chose qui arrive tout le temps, bah c'est Noël et là c'est le moment d'acheter des cadeaux, c'est le moment d'aller faire ses courses et on évoque le rouge pour donner envie de consommer. Et je pense que ça marche assez bien parce que c'est la période où on consomme le plus, encore plus que d'autres fois, parce qu'il y a le cadeau. Et en plus, le mot cadeau, il revient tout le temps. Il y a le cadeau idéal ici dans cette publicité, ici, la famille Noël. Bon, là, c'est par rapport aux banques, mais il y avait une autre publicité en fait où on parlait un peu plus des cadeaux. Par rapport au cadeau. Alors, le cadeau malin de Noël aujourd'hui, c'est d'offrir un téléphone portable, nouveau design que je connais pas, en fait, où tu as limite un ordi dedans.
Ça pourrait être encore mieux écouté.
Voilà, alors du coup, on en a déjà un portable, mais il faut bien un nouveau, du coup, on prend celui-là. Donc, c'est intéressant de voir comment, justement, on nous manipule pendant Noël pour nous pousser à acheter ces cadeaux-là. Bon, j'ai pas le temps de détailler tous les procédés publicitaires en fait pour nous manipuler là-dessus, mais je laisse la place en fait par rapport aussi au foie gras. Il y a des pubs alimentaires aussi là-dessus. Hein,
ça m'a fait penser à cette pub que j'ai vue, que c'était un peu désagréable à voir. Ça m'a pris du temps pour le comprendre. Vous allez pouvoir vous lâcher sur le foie gras. C'était l'annonce d'une pub pour des articles d'électro-ordinateur, etc. Je ne vais pas citer la marque, mais c'était comme si, bon, bah, c'est tellement pas cher, vous allez pouvoir vraiment vous lâcher quoi, sur n'importe quoi, comme s'il fallait absolument dépenser son fric sur quelque chose. C'est vraiment son style.
Alors justement, le foie gras, qu'est-ce que c'est ? Alors, bah, chaque année, pour la production du foie gras, il y a 82 millions de naissances de canetons et 700 000 oisons. Donc ça, c'est les oies. Sur les canards, bah, seuls les mâles sont gavés et parce que en fait, le foie des femelles a trop de nerfs. Et qu'est-ce qu'on fait des femelles ? Bah, soit on les élève pour faire de la viande, soit on les broie directement. On ne cherche pas davantage à comprendre. Donc on broie les petits poussins femelles. Donc le gavage, alors maintenant qu'est-ce que c'est exactement que le gavage ? Bah, ça consiste à administrer de force à l'aide d'un tuyau enfoncé de la gorge jusqu'à l'estomac de l'animal les aliments en grande quantité, très énergétiques et déséquilibrés. Donc avant avec la méthode artisanale ça prenait 45 à 60 secondes, maintenant ça prend 2 à 3 secondes avec les méthodes industrielles de gavage à la pompe hydraulique ou pneumatique. Donc les oiseaux sont gavés deux fois par jour. Et pour savoir un petit peu ce que ça représente, je me perds dans mes feuilles. En gros, c'est comme si, pour comparer à un être humain, on nous faisait manger deux prises de 7 kilos de spaghettis. Pour comparer un petit peu. Donc ça fait vraiment une
seule fois.
Non, deux fois. Par exemple, c'est comme si on avait 14 kilos de spaghettis par jour. Ah. Une prise de 7 kilos et une autre prise de 7 kilos. Donc voilà, donc c'est vraiment, on surcharge.
Ça doit faire un peu mal.
Bah, effectivement.
Au ventre.
Donc effectivement, ça fait un petit peu mal et du coup, ça entraîne des maladies sur le foie du canard. Donc j'ai vraiment pas le temps de détailler. Mais en gros, il y a vraiment des maladies du foie. Plus des dommages physiques, donc avec perforation de l'œsophage, brûlure à cause du maïs trop chaud, élargissement de la rate et du foie, etc. Le poids de la nourriture compresse les autres organes. Donc c'est vraiment assez lourd pour les canards. Faut savoir qu'il y a aussi une énorme perte. Donc là, il y a, bon là, je vais pas retrouver les chiffres dans toutes mes pages, mais il y a plusieurs millions de canards qui passent pas l'épreuve du gavage. Donc après, il y a des lois, il y a la législation européenne et française. Et le problème, c'est qu'en France, on met en avant l'exception culturelle. Et du coup, les industriels refusent, sous ce prétexte d'exception culturelle, de respecter ces lois. Voilà, parce que normalement, dans les lois du bien-être animal, etc., les directives, on doit ne pas blesser l'animal lorsqu'on le nourrit. L'animal doit vivre de façon à pouvoir déployer ses ailes. Or, les canards sont dans des petites cages individuelles, etc., ils ne peuvent pas bouger. Donc c'est assez difficile. Et bon, comme il y a un gros business derrière et qu'on met en avant l'exception culturelle, globalement, voilà, ça passe, quoi. Et ça reste... Voilà, j'ai dit en 3 minutes... Bon appétit.
Pour l'exception culturelle, on a le droit d'aller à l'encontre de la loi. C'est un peu
voilà.
Ça.
Ce et pourtant, il y a des professeurs de l'INRA qui ont fait une analyse du foie du canard et qui concluent que trop riche en calories et en cholestérol et pauvre en protéines et en acides gras essentiels, le foie gras est un aliment très déséquilibré sur le plan nutritionnel. Bon appétit.
Voilà, voilà.
Merci Élise. Voilà,
ce que je voulais surtout mettre en avant, c'est la souffrance animale. Le fait que quand même il y a une sélection, on broie les poussins femelles parce qu'elles ne sont pas utiles. Après, c'est quand même une souffrance pour le gavage. C'est dans des cages individuelles. Et on obtient des foies malades pour le plaisir d'un repas. Donc voilà. Donc, je vous conseille d'aller voir sur le site de différentes associations. Il y a L214. Donc L214 qui fait référence au seul article qui protège les animaux. Il y a aussi une campagne contre le gavage des oies. Donc je crois que c'est Stop Gavage. Et aussi la protection mondiale des animaux de ferme. Qui s'occupe un petit peu du bien-être animal. Donc allez vous renseigner, soit par internet, soit en essayant d'appeler ces associations pour les rencontrer. Et maintenant, je vais laisser la parole à la force.
La force.
Mais arrêtez, il y a Georges Lucas qui va demander des droits là-haut.
Ah non, c'est moi qui chante.
Qui, Georges ?
Alors, d'où ça vient cette histoire de force ? Parce que c'est un truc qu'on se balance de temps en temps entre nous, essentiellement militants dans l'environnement. Et cette fameuse force, c'est directement inspiré du récit de Georges Lucas, justement, que la force soit avec vous. Et cette force, c'est quelque chose qui est. Qui a un fondement, en fait. Hein. La force, c'est quelque chose qui a une origine. Et l'origine, Georges Lucas en parle très bien, c'est l'équilibre. L'équilibre. L'équilibre des forces. L'équilibre des forces qu'on retrouve dans l'écologie, dans l'équilibre de la biosphère. Et cette fameuse force, devinez qu'est-ce que c'est, en fait.
C'est nous ?
Non. Et oui, en même temps. C'est ça qui est impressionnant avec Georges Lucas, c'est qu'il a très bien retranscrit quelque chose qui était à cette époque-là très très qui n'était pas très clair, peu connu. Ben cette force, c'est la force créatrice de la vie. Et comprendre ce que c'est que la force, c'est comprendre l'origine de la vie. Et donc voilà, quand on dit que la force soit avec vous, ben c'est que la force créatrice soit avec vous. Et vous apporte le petit plus qui vous sera nécessaire pour réussir une entreprise, pas forcément gagnée d'avance. Voilà. Donc, jeune Padawan, je vous invite à vous former. Et je vous souhaite que la force soit avec vous, ainsi que vos auditeurs. Et on va...
Oui, ouais, mais moi, je voulais dire que je pense que la force est déjà en nous, il suffit de la trouver. Exactement. Ou de la laisser s'exprimer.
Elle est tout autour de nous, nous vivons dedans, elle nous donne de la force.
Elle n'est pas radioactive, en plus.
Elle n'est pas radioactive.
Pas encore.
Pas encore.
Voilà. Donc, voilà, l'émission se termine tout doucement. Et ben, c'est...
Comme le dit Bébert. Salutations écologiques et solidaires. Joyeux Noël.
Is escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît irréelle.
C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force.
Le sombre monarque débarque et éteint de son pouvoir la puissance de l'ombre s'installe.
Politiquement, oh, politiquement.